C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh non, y'a plus de café là.
Attends, on fait après l'émission.
Le papier n'est pas imprimé là.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
C'est allez, bon. Dernière fois.
Zou.
Allez les gars, courage.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Vivement Bouilloire, que les nez se débouchent. Et attention, attention, pas de S à nez, même au pluriel. Au sommaire de cette édition du mardi 6 décembre 2011, on est bien le 6 décembre,
ouais.
Ça, je perds pas la boule.
Pas encore,
mais ça ne saurait tarder. Nous aurons droit à un match de boxe aérien sur les ailes des éoliennes dans la rubrique chemise à rayures, ça sent le soufre entre élus et anti-éoliens. La chronique parenthèse littéraire de Sylvie nous plongera aujourd'hui dans l'univers de Georges Simenon. Et Elsa Gourmand, tu as quelques minutes de répit avant tes choux et fadaises, puisqu'on ouvre notre émission avec une invitée d'exception, Marcel.
Les îles Fidji, la Corse, les Seychelles, New York, Paris, Calédonie Nouvelle. Ce sera Sarcelle, Leïla, Salomé ou Yaël, Mélodie, Clara, Jeanne ou Estelle. Pour toi, mon vieux, ce sera Marcel de Sarcelle. Tartare entre côtes saignantes au sel, soupe de melon au parfum de cannelle. Pour toi, mon vieux, c'est chaud Bruxelles, cuisine et pas Marcel. Satin, gras de soie, belle dentelle, douceur, délice, plaisir, chamelle. Pour toi, mon vieux, c'est la vaisselle, des assiettes de choux de Bruxelles, cuisine et pas Marcel, de Sarcelles. Palace, palais, piscine à l'hôtel, champagne, caviar, drogue naturelle. Pour toi, mon vieux, c'est la poubelle, à descendre après la vaisselle, des assiettes de choux de Bruxelles, cuisinées par Marcel, de Sarcelles. Farniente sans souci, la vie belle, vacances au soleil, harmonie sensuelle. Pour toi, mon vieux, ce sera querelle, si tu descends pas la poubelle, juste après la vaisselle, des assiettes de choux de Bruxelles, cuisinées par Marcel, de Sarcelles. Méchante petite ritournelle, réalité ou cliché cruel, ris pas du commun des mortels, qui parfois se querellent, des histoires de poubelles, juste après la vaisselle, d'assiettes de choux de Bruxelles, cuisinées à Sarcelles, par Marcel.
Parfois je repense à ce que me disait papa, y en a qui ont de la chance et d'autres pas.
Est-ce qu'Elsa cuisine du rutabaga, Chloé des navets, je ne sais pas, Audrey dépanné. En tout cas, Marcel de Sarcelles, elle a l'air de cuisiner des choux de Bruxelles. Cet extrait du dernier album des Ogres de Barbac, Comment je suis devenue voyageur, c'est un de nos CD de la semaine. Les Ogres de Barbac qui ont fait l'Olympia hier soir et qui se refont l'Olympia ce soir, ça va, la vie est belle. Ils seront vendredi soir à l'amphithéâtre de Rodez, c'est pas loin ça.
Eh oui,
hein, c'est pas Cocatrix, mais quand même, avec les MP1.2 en première partie. Et nous avons une place à vous faire gagner, une par jour. Il faut nous appeler maintenant. 3, 2, 1, c'est parti.
Chou.
Fadaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah!
C'est dur aujourd'hui, hein Audrey ?
Oh, m'en parle pas.
Peut-être demain, ça sera vachement mieux. Tu tournes en rond comme une bête, hein, à la radio, là. Tu tires la vache par la queue. C'est dur aujourd'hui, la crise. Tu retournes le steak sur la paille. Tu lèches le noyau de la cerise avant que la machine déraille. Aïe, aïe, aïe.
C'est pas un texte de l'atelier d'écriture, ça.
Non, ça c'est Ijla. Aujourd'hui, la crise. Tout ça pour introduire le fait que, on ne s'étonnera pas que... La crise de l'euro et l'accord Sarko-Merkel face à la une du Figaro et de Libération. L'accord Sarkozy-Merkel pour refonder l'Europe, titre le premier, pendant que le deuxième y voit plutôt un mariage de raison. Libé qui nous propose dans la foulée un dossier de 10 pages sur cette Allemagne tant glorifiée pour sa rigueur, sa sobriété, son sérieux. Alors, Deutschland über alles ?
Elsa, je sens que ton mauvais esprit ressurgit là encore.
Oui, peut-être. Hein peut-être. Ouais, pourtant, c'est bien ce qu'on cherche à nous faire croire depuis plusieurs mois. L'Allemagne au-dessus de tous. Mais que ce soit Libé ou Marianne, les dossiers qu'ils consacrent à notre voisin germanique nous en apprennent de belles et de moins belles. Alors, la dette de l'Allemagne d'abord. Hein, elle est bien plus élevée que celle de l'Espagne et de la France. Et oui, l'endettement public qui représente 83,2% du produit intérieur brut, contre 81,7% en France et 65% en Espagne. Premier point.
Gloops.
Deuxième point.
L'emploi.
L'emploi. Ouais, c'est pas brillant non plus. Hein. Alors c'est vrai que si le taux de chômage est moins élevé de l'autre côté du Rhin, il y a une raison, une bonne raison. En 2010, plus d'un million de personnes travaillaient pour un salaire horaire égal ou inférieur à 5 euros brut. 5 euros.
C'est là un paquet de clopes, même
c'est
pas.
C'est pas lourd, hein. Conséquence, multiplication des emplois précaires et un taux de pauvreté de 13% dans les anciens lenders et de 19% dans les nouveaux. Et les syndicats allemands, d'ailleurs, réclament la création d'un SMIC généralisé à 8,50 euros. Nous, on va passer à un peu plus de 9 brut. Et puis les chiffres du chômage, comme chez nous, ils sont plus ou moins trafiqués hein, grâce à des mesures favorisant les entreprises. Donc on peut nous dire qu'ils ont un taux de chômage plus bas que le nôtre, tout est relatif. Contrairement aux préjugés, enfin, savamment distillés et entretenus dans l'opinion publique par des communicants aux ordres du pouvoir, ça c'est moi qui le dis, c'est pas dans les journaux, les salariés allemands font moins d'heures que les Français. Eh oui. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont bien en Allemagne, hein, mais tout de même, moi, encore une fois, moi-même, hein, je n'engage que moi, je m'interroge. Mmh. Le modèle allemand ne serait-il pas une vaste fumisterie inventée de toutes pièces pour nous faire avaler les couleuvres de la rigueur économique et sociale ?
Mais non, mais Elsa, tu vois le mal partout, c'est, oui. Tu vois, on te l'a dit, tu vas te rendre malade avec ça.
Non, mais quand même.
Mmh, ouais.
Ceci dit, le SMIC en France a du plomb dans l'aile. Hein. L'Humanité nous informe qu'un fonctionnaire sur cinq gagne moins que le SMIC. Je cite, les salaires de quelque 900 000 agents ont été rattrapés puis dépassés par le minimum légal. L'ensemble des rémunérations de la fonction publique s'est tassé vers le SMIC. Voilà, c'est pas brillant. Ça concerne surtout la catégorie C de la fonction publique.
Le dernier échelon.
Ouais. Mmh. Avant, il y avait d'ailleurs une catégorie D, mais on l'a supprimée quand même, parce que là, c'était...
On parlait pas.
Et puis, je tenais simplement à signaler aussi que l'UMA propose tous les jours des portraits de la France populaire. Et aujourd'hui, c'est gros plan sur un couple de producteurs de lait en Maine-et-Loire, avec ce titre « Vivre du lait quand le lait ne paie plus ». Voilà, il n'y a pas que chez nous. Et là, c'est du lait de vache.
Ah.
Voilà.
C'est moins digeste.
Et ouais.
On poursuit cette chouéfadaise avec une information mortifère comme tu les aimes tant, Elsa.
Et ouais. Les cendres du général Marcel Bijard, décédé en juin 2010, vont être transférées à l'hôtel des Invalides à Paris, où reposent les grandes figures de l'armée française. L'initiative...
Non, pardon.
S'il te plaît, Audrey, un peu de sérieux. L'initiative du ministre français de la Défense, Gérard Longuet, suscite donc une vive controverse en France, en Algérie et en Algérie, compte tenu du passé de Bijard en Algérie.
C'est pas Jean-Marie, hein ?
Hein ?
Non, c'était nul, c'est pas Jean-Marie, non, allez...
Ceci dit, Gérard Longuet, il faut rappeler qu'il faisait partie de la clique d'extrême droite avec Devedjian, Madelin, tu sais, tous ces gens-là, il faisait partie du GUD, un syndicat étudiant d'extrême droite qui aimait bien tabasser de l'arabe.
Mais ils ont évolué, Elsa.
Oui, ils ont changé.
Ils ont changé.
Bref, rue 89, dès la semaine dernière et Marianne cette semaine, reviennent sur cet honneur accordé au général Bijard. Une décision prise au plus haut niveau de l'État, en cette période préélectorale, et qui vise sans doute à caresser dans le sens du poil l'électoral pied noir, s'indigne Nicolas Domenac de Marianne. Marcel Bijard, qui montra certes du tempérament et de l'audace dans la résistance, mais qui pendant la bataille d'Alger couvrit les pratiques les plus détestables. Il a toujours démenti avoir pratiqué la torture, mais la qualifiait de mal nécessaire.
Ma vie, ça a été la France, ça a été la patrie. Alors quand on vient traiter Bijard de fonctionnaire, ça me fait mal au ventre. Mais j'aurai ma revanche, croyez-moi, parce que ce qui a compté pour moi, c'est la France, mon pays.
Le général veut rester un exemple respectable et s'agace à parler de la torture.
Non, mais j'ai pas dit que ça n'a pas existé. Ça, tout le monde le dit qu'il y a eu la GGN. Hein?
Vous ne pouvez pas faire autrement?
Oh non, écoutez, je coupe là-dessus. Ne m'emmerdez pas avec ça. Hein? Non. Non, non, ça suffit. On en parle toute la journée, il y en a marre. Hein, Massu a reçu des ordres, il était général, il a fait ce qu'il devait faire. Et Bijard est un lieutenant-colonel, haut d'ordre machin, et qui travaille le plus proprement possible.
Qui travaille le plus proprement possible. Et puis ça le fait rire, la GGN. Hein. Il y a un petit ricanement. Ne m'emmerdez pas avec ça, et j'aurai ma revanche. Bah, il l'a eu, sa revanche. Hein. Alors certes, conclut Domenac dans Marianne, cette sanctification laïque a perdu beaucoup de son prestige, mais ce qu'il en reste mériterait qu'on ne la sacrifiât pas à des intérêts électoraux de fort court terme. Et donc des hommes politiques, des intellectuels, des journalistes et des historiens français et algériens réunis dans un collectif ont lancé un appel pour exiger que, je cite, « le gouvernement français renonce à cette initiative historiquement infondée, politiquement dangereuse et humainement scandaleuse ».
Pour nous remettre de ces mauvaises nouvelles, je crois que tu as un petit conseil à nous donner, Elsa. Il arrive à point nommé.
Oui, buvez du vin, d'abord.
Hein? Pas n'importe lequel.
Non, cette période de Beaujolais nouveau, eh ben oui, moi j'invite les gens à goûter du Beaujolais, voilà. Alors j'entends d'ici les ricanements moqueurs, sarcastiques de certains qui se moquent de mon inculture œnologique. Mais je persiste et je signe avec le concours de Marianne, toujours, qui nous propose la lecture d'un livre intitulé « Beaujolais, les créateurs ». Et Périgot Légasse de commencer son article en ces termes. Alors que, après plusieurs années de disgrâce, voire de rejet, l'arrivée du Beaujolais nouveau retrouve ses accents festifs, y compris sur le terrain médiatique. Marianne observe que la période d'anathème, justement jetée sur l'un des vignobles les plus emblématiques de la France, cède enfin la place à un discours mesuré. Alors qu'il est, les vins du Beaujolais confirment leurs lettres de noblesse et les Français retrouvent lentement le bonheur de la dégustation en primeur. Voilà. Alors ce livre, Beaujolais, les créateurs, dresse le portrait de vignerons et de vigneronnes qui élaborent des vins de charme et de tendresse. Saluons, nous invite Périgot Légasse, le travail de ces héros qui ont sauvé le Beaujolais. Et j'ajoute, moi, buvez du Morgon, déjà le mot, tu sais, c'est bon, c'est rond, c'est... Buvez du Morgon, du Moulin à Vent, du Saint-Amour, du Régnier, du Juliennas, du Brouilly, du Fleury. Je vous assure que ça réconcilie avec le monde.
Brouilly, Chablis, Bourgogne, grand château du Bordelais, Chinon, Tursans, Sainte-Croix, Dumont, Châteauneuf ou Beaujolais. L'Irac, Médoc, Champagne, et Puligny, Montrachet, en cave obscure vieillirai et prendrai de belles années.
Puis un jour une main tremblante doucement vous redressera et suivra la noble poussière. Et vous monterez en silence les escaliers de vieilles pierres pour arriver jusqu'au salon. Là, vous ferez l'admiration. C'est aujourd'hui anniversaire.
Brouilly, Chablis, Bourgogne, grand château du Bordelais, Pomard, Canton, Clos, Saint-Denis, Givry, Romane et Conti, Coteau
du Languedoc, Margot, Saint-Véran, Pouilly, Locher. Pour toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier.
Et comme un rêve qui s'achève, la soirée...
Extrait de Vive le vin de Chanson Plus, Bifluoré.
Avec un petit peu de roquefort et de pâte de coin.
Ah, mais... c'est trop bon.
Ah, c'est trop bon.
Les poisses avec le morgon.
Ah...
Toi, fais pas la grimace.
Mais non,
elle
mais
fait la grimace.
Non, c'est une grimace de vite, on se casse et on va se faire une dégustation. Non, mais je vous rappelle quand même, hein, je reprends mon rôle.
Oui.
Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
C'est pour ça qu'il faut en boire beaucoup.
Et tant pis, parce qu'on va quand même rester dans le créneau avec un CD de la semaine qui est super bravo, on vous en a déjà parlé hier. Et bien la demoiselle, elle nous chante un petit morceau où il est encore question de vin et de bon dîner. De bon vin et de bon repas, on dirait pas, hein, sur cette petite mélodie. Donc, Wine and Dine, extrait du dernier album de Super Bravo qui s'appelle The Space Without Corner. Il est temps de plonger dans la chemise à rayures.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage
sur Radio Centrafrique.
Chers auditeurs et auditrices, prenez place pour le match musclé qui va suivre. Un grand combat a commencé sur plusieurs communes du Sud Aveyron à propos d'un projet d'implantation de 600 éoliennes. Il s'agit d'éoliennes industrielles les plus puissantes que l'on trouve dans le monde, avec 145 mètres d'envergure. D'un côté du ring, nous avons deux élus, Madame Nicole Lossel, maire des Costegauzon, et Monsieur Marcel Calmès, maire de Saint-Rome-du-Tarn. Tous deux ont donné leur feu vert pour accueillir 10 éoliennes réparties sur leurs deux communes. De l'autre côté du ring, nous avons l'opposition avec Armand Liquière, représentant du collectif Énergie Alternative du Sud Aveyron et Midi-Pyrénées, collectif qui regroupe 17 associations de l'Hérault, du Tarn et de l'Aveyron qui s'opposent au projet de parc éolien. Plusieurs de ces associations sont déjà en procès. Et enfin, nous avons Carole Joly, conseillère municipale de Saint-Victor-et-Melvieux et présidente de l'association Plateau Survolté, qui a vu le jour en avril 2010 pour lutter contre le projet d'installation d'un transformateur 400 000 volts réparti sur 9 hectares.
Tout simplement, nous avons invité les personnes à venir à l'enquête publique pour qu'ils viennent formuler leur avis sur ce projet, bien que depuis 2004, ce projet est dans les tuyaux et nous avons régulièrement convoqué et pris la tâche du comité de pilotage qui est composé à la fois des agriculteurs, des chasseurs, des randonnées, des personnes qui sont, intéressées par le projet, c'est-à-dire les propriétaires, les riverains, ainsi que le parc naturel régional des Grands Causses.
Résultat des courses. Pouf, il crée un comité de pilotage, hein, les deux communes de Costegauzon. Et dans ce comité de pilotage, bon, bien sûr, il y a le maire de Saint-Rome-de-Tarn, la mairesse des Costegauzon, et après ce qu'ils appellent des représentants des habitants. Alors, par exemple, il y avait le maire de Saint-Victor qui représentait les habitants de Saint-Victor, à part qu'il n'était pas du tout représentatif, puisque au conseil municipal, on n'était pas au courant qu'il allait dans ce comité de pilotage, et donc, en fait, il a parlé en son nom seul, s'il a dit quelque chose. Ensuite, il y avait une représentante de l'association des randonneurs de Costegauzon. Là aussi, c'est une tromperie. La dame, c'est la femme du premier adjoint. Bon, peut-être est-elle randonneuse, en effet, mais il n'y a aucune association de randonneurs spécifique au Costegauzon. Donc, elle n'était pas du tout représentante des randonneurs. Et ainsi de suite, un représentant des agriculteurs, qui chaque fois, ils parlent en leur nom seul. Il faudrait en fait spécifier tous ces gens qui sont soi-disant représentants, hein, que si on est représentant, ça veut dire que on va quelque part pour représenter des habitants en leur nom. On prend quand même auparavant, en amont, le pouls de la population, on prend leur avis. Et ensuite, quand on va au comité de pilotage, on représente vraiment parce qu'on fait entendre la voix. Et ensuite, en retour, quand on retourne du comité de pilotage, on explique aux habitants qu'on représente, il s'est passé ça, ils ont dit ci, etc. Mais là, pas du tout. Ils ont été juste marqués leur nom, signé, et puis basta.
Nous faisons des réunions où la population a été venue consulter le projet. Donc il y a eu concertation permanente entre les personnes et les porteurs de projet. Il faut savoir que le porteur de projet, ce n'est pas la municipalité. Les municipalités ont reçu le projet de EDP renouvelable qui est représenté par Madame Méline Massebio à Millau. Nous nous sommes prononcés avec un avis favorable les deux communes sur le projet d'implantation de 5 éoliennes. Et afin de maîtriser justement cette situation, nous avons souhaité rédiger et mettre en place ce que nous appelons une zone de développement éolien qui peut correspondre à un document d'urbanisme qui permet à nous, municipalités, de maîtriser, de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment dans ce domaine.
5 éoliennes sur Saint-Rome-de-Tarn, 5 éoliennes sur les Costegauzon sont des éoliennes de 145 mètres de haut. Or, des éoliennes, si vous voulez, de 120 ou 140 mètres de haut, sont des éoliennes que l'on voit absolument de partout, y compris du Larzac, qui vient d'être reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ces éoliennes créent des nuisances visuelles, mais créent également des nuisances auditives, hein, pour le proche voisinage, mais aussi pour le voisinage beaucoup plus éloigné. Et c'est en quelque sorte marque, si vous voulez, de leur empreinte, le paysage. Donc on est en train, et ça il faut que les gens en prennent bien conscience, on est en train de perdre complètement l'identité de notre pays.
Il y a, dans une commune riveraine des Costes et de Saint-Rome, un amalgame entre le poste de transformateur qui est en projet à l'heure actuelle et les éoliennes.
Alors, nous sommes opposés à ce transformateur, parce, bon, il y a plusieurs raisons. La première raison pour nous, qui était évidente, c'est que on est à la campagne, on est dans des zones quand même jusqu'à présent préservées de l'industrialisation, hein. Et là, le projet de transformateur est très grand, hein. Il est environ de 9 hectares. En ce moment, suite à nos actions, il serait réduit à 6 hectares, hein. Mais il faut savoir que ces parcs avec des transformateurs, y arrivent de nombreuses lignes très haute tension, hein. C'est pas une seule ligne qui va aboutir dans ce parc, c'est plusieurs lignes très haute tension, des lignes de 125 000 et des lignes 63 000 aussi. Et on va transformer l'électricité de celle-ci en 400 000 volts.
Donc, est-ce que vous avez rencontré l'opposition ? C'est quoi leurs arguments ?
Nous défendons notre projet éolien, point à la ligne. Voilà. Comme ils sont contre les transformateurs, ce sont les mêmes personnes qui sont contre les éoliennes. Point à la ligne, et c'est tout. Voilà.
Certains, ils sont opposés simplement aux éoliennes sans parler du transformateur.
Eh bien, vous êtes mieux renseignés que moi.
Est-ce que les gens qui sont contre ce transformateur sont les mêmes qui sont contre les éoliennes ?
Bah oui, mais il y en a plus qui sont contre les éoliennes encore.
Oui, mais madame, nous sommes en démocratie et chacun a le droit d'exprimer sa façon de voir les choses. Donc nous respectons leur position. Par contre, ce que nous souhaitons, c'est que les gens s'expriment dans le calme et la sérénité. C'est tout, point.
Quelles sont vos motivations par rapport à ce projet ?
Nos motivations, eh bien, c'est que nous sommes confiants dans ce projet, car notre démarche donc, d'un parc éolien est avant tout le développement d'une énergie renouvelable qu'est le vent, en utilisant une énergie locale, gratuite, écologique, économique, propre et une énergie d'avenir, mais complémentaire des autres productions telles que le soleil, le bois, etc.
Voilà.
Et peut-être l'hydraulique. Voilà. Donc notre dossier qui a été porté, donc le permis qui a été porté par EDP, a été recevable par les organismes de contrôle tels que l'Adreal, hein, qui est en conformité au cahier des charges du Grenelle 2. Donc à partir de là, l'enquête, aujourd'hui nous sommes à l'enquête publique et nous invitons donc à la consultation dans le calme, en conscience et responsabilité. Si les Costes-Gozon et Saint-Rome-de-Tarn ne pouvaient pas recevoir des éoliennes, le permis de construire nous aurait été déjà barré auparavant, il ne serait pas à l'enquête publique. Mais nous correspondons, si vous voulez, aux critères de pouvoir mettre des éoliennes. Or, en tant qu'élus, c'est de notre devoir de promouvoir ces nouvelles énergies respectueuses de l'environnement pour les générations futures.
Une éolienne, c'est avant tout un mât en acier, des pales en fibre de verre ou de carbone, et le rotor, c'est éminemment du cuivre, donc des matériaux nobles et recyclables. Donc au bout de 20 ou 25 ans de vie, l'éolienne peut être facilement recyclée sans aucune difficulté. Reste simplement l'assise en béton, qui n'est pas négligeable, c'est 10 sur 10, mais dès lors, la loi Grenelle 2 fait l'obligation aux développeurs de mettre sur un compte bloqué à la Caisse nationale des dépôts et consignations les sommes nécessaires pour le démantèlement des éoliennes.
Parce que ça emploie énormément de béton qui est coulé dans le sol et qui, même 20 ans après, restera dans le sol parce qu'il n'est pas prévu de l'enlever. Hein. Ça coûte très cher aussi en CO2 pour construire les éoliennes, pour les transporter, pour préparer les terrains. Et ça coûte très cher aussi en déforestation, hein, parce qu'on n'hésite pas à déforester pour implanter de l'éolien pour des raisons soi-disant écologiques, alors qu'en fait, ça ne répond qu'à des lobbies financiers. Il y avait des retombées économiques qui sont évidemment pour le promoteur éolien, hein, parce que le promoteur éolien est subventionné. Il est subventionné de deux façons, soit par des subventions européennes, c'est-à-dire nos impôts, hein, et il est subventionné aussi par un prix de l'électricité qui est le double du prix habituel que l'EDF paie pour de l'électricité, c'est-à-dire que c'est payé à 8 centimes, 2 du kilowattheure, alors qu'habituellement ça tourne aux alentours de 3 et quelques centimes. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est tous les consommateurs d'électricité qui subventionnent ces promotions. C'est-à-dire que non content de se faire détruire notre pays, on le finance, nous, on finance nous-mêmes la destruction. Hein. Et ça rapporte énormément aux promoteurs qui, pour pouvoir s'implanter, arrosent les communes, arrosent le département, le conseil général lui en touche un peu plus, mais si vous voulez, ce qui a fait l'attrait de l'éolien, c'est cet apport dans des toutes petites communes d'argent frais.
Donc qui finance ces implantations ?
C'est EDP Renouvelable, c'est une société.
Qu'est-ce que ça va rapporter en échange sur le plan de vue financier ?
Alors pour nous les communes, d'après les projections hein, pour les deux communes, on arriverait à 50 000 euros par an, et 80 000 euros pour le département et 12 000 pour la région. D'autre part, nous ne nous cachons pas aussi derrière le petit doigt, il y a une incidence financière. Nous, ce qui nous a fait aller dans ce projet, c'est que les 5 éoliennes des Costes-Gozon et les 5 éoliennes de Saint-Romain-de-Tarbes se trouvent les unes et les autres sur des propriétaires cultivateurs différents. Donc 10 mâts, 10 propriétaires exploitants. C'est très important pour eux.
Mais il faut savoir que ces gens-là, si vous voulez, quand ils acceptent ce revenu supplémentaire, ils s'imposent aussi des contraintes et souvent des nuisances.
Il y a aussi également un élément qui n'est pas négligeable, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes de plus en plus énergivores sur le plan électricité et nous allons progresser malgré notre souci d'économie, car va arriver le transport électrique. Il faudra bien les brancher. L'électricité fournie par les parcs éoliens de Costes-Gozon et de Saint-Rome pourra alimenter 18 000 personnes, éclairage et chauffage compris.
18 000 personnes dans le sud Aveyron ou ailleurs ?
Ah ben oui, dans le sud Aveyron. Ah ben, disons que, non, soyons honnêtes, l'électricité sera remise dans le réseau. L'énergie produite est vendue à RDF. Il y en a tout égal, hein.
Toute l'électricité produite par tous ces parcs éoliens va aboutir dans le poste de transformateur de Saint-Victor, là, 400 000, et ils vont l'évacuer vers l'Espagne. C'est totalement en corrélation. S'ils font pas ce poste 400 000, ils vont pas pouvoir continuer à mettre de nouveaux parcs éoliens. Il y aura pas de quoi, les lignes ne supporteront pas. On est tout à fait défavorable aux installations de parcs éoliens parce qu'on a compris qu'en fait, c'est une centralisation. Comme on peut faire des unités de production nucléaire qui centralisent une production d'énergie, là, c'est une centralisation de production à partir de l'éolien concentrée sur certains territoires de France. Alors qu'il peut y avoir le petit éolien. Et ensuite, il peut y avoir, bien sûr, de l'éolien, mais on pourrait dire raisonné d'une manière plus locale. Et souvent, je me réfère à cet exemple de Montdidier en Picardie, parce que malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup d'exemples. C'est la commune de Montdidier qui a fait installer 4 éoliennes aux abords de la ville, sur des terrains publics, d'anciens terrains de l'hôpital public. Et ils distribuent eux-mêmes l'électricité produite par leurs 4 éoliennes aux habitants de la commune.
Est-ce que l'accord de la population est indispensable pour que ce projet voie le jour ?
Ah ben, disons que c'est souhaitable. Nous sommes là pour le bien public et l'intérêt général.
Souhaitable, mais donc pas indispensable.
Ça, il faut bien savoir que le permis de construire sera étudié par les organes et l'administration qui dépendent de Madame le Préfet. Et c'est elle et elle seule qui a la signature du permis de construire.
EDP, là, ceux qui veulent faire les parcs éoliens, sans arrêt, ils se réfèrent à la communication qui a été bien faite aux populations, à l'information. Donc, effectivement, les habitants de Saint-Victor et des habitants des Costes-Gozon, en ce moment, signent des pétitions, affirmer leur opposition à ces parcs éoliens et ensuite faire entendre leur voix, puisqu'ils n'étaient pas au courant, les trois quarts. Hein. Ils découvrent ça, certains depuis l'année dernière, d'autres que depuis 6 mois. Et sans savoir exactement en quoi ça consistait, qu'est-ce qu'il allait avoir exactement. Donc c'est vraiment pour contrer la désinformation et montrer aussi qu'il n'y a pas eu réelle information. Hein. Tout n'était qu'une parodie en fait. Dans la salle de l'enquête publique, là, au Costegozon, on a eu la surprise de voir que Madame Massebio, qui représente EDP Renouvelable, était là. Hein, elle tenait en fait stand, on pourrait appeler ça comme ça, pour son propre employeur. Bon, ben ça, c'est un peu fort quand même. Hein, c'est une enquête publique, il doit y avoir juste la commissaire enquêteur, Madame Magnan, et puis c'est tout. Hein, il ne doit pas y avoir le promoteur qui est là pour faire participer à une propagande dès que les gens interrogent Madame Magnan. Hein. Dans ce cas-là, toutes les associations qui luttent contre l'éolien, ils ont qu'à eux aussi se pointer dans les mairies au moment des enquêtes publiques et puis mettre une table avec leurs papiers et puis leur propre vue du projet.
Une enquête publique est en cours, les arguments vont bon train, nous verrons bien qui aura le dernier mot. La suite au prochain épisode.
Et demain, dans la chemise à rayures, Elsa Decour reste dans le monde de l'énergie avec Enercoop, un fournisseur d'électricité qui fonctionne sous forme coopérative et qui s'approvisionne en énergie verte.
Extraños signos se ocultan bajo la piel del recluso que agujetita le puso al lenguaje carcelario, dibujando su prontuario de la cabeza a los pies. De los 20 lleva 10, de los 20 lleva 10. Estigma de la leonera que ha de llevar de por vida como símbolo y herida dramática que en su piel ama de darle cartel, lo pinta de cuerpo entero. Siempre estará prisionero, siempre estará prisionero. Se pianta fuerza de Paco, pero un ruido de cerrojo lo lleva entre abrir los ojos. Y al ver de nuevo el tatuaje, laberinto de un paisaje con trazo de filigrana, recuerda que sigue en cana, recuerda que sigue en cana.
El tatouage de Melingo, le troisième CD de la semaine. Tout ça avant la parenthèse littéraire de Sylvie Boulard qui nous parle aujourd'hui de Georges Simenon.
Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un un écrivain qui est à la fois très très célèbre et à mon avis relativement méconnu et qui s'appelle Georges Simenon. Donc Georges Simenon, tout le monde connaît bien évidemment son personnage fétiche qui est le commissaire Maigret. Même si on n'a pas lu ses aventures, on l'a vu en feuilleton à la télé. Alors soit très mal joué par Jean Richard, mais ça remonte au calende grec, donc les moins de 20 ans ne s'en souviendront pas, ou sinon joué beaucoup mieux par Bruno Kremer. Mais en fait, j'avais envie de parler de Simenon parce que, à mon sens, il fait partie de ces écrivains qu'on méconnaît beaucoup. On a l'impression qu'on sait tous deux et en fait, on ne connaît pas grand-chose de leur œuvre. Alors Georges Simenon, il est né en Belgique, en 1903 je crois, si je ne me trompe pas, je vérifie sur ma petite fiche, c'est ça. Et c'était un auteur qui a été très très prolifique, il a écrit des centaines et des centaines de romans. Et ce qui est assez intéressant dans son parcours, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours voulu être écrivain. Bon, il a commencé très jeune en tant que journaliste, dans un journal plus ou moins d'extrême droite. En fait, ce n'était pas un personnage forcément, je pense, très toujours très agréable, très sympathique, mais en même même temps, voilà. Donc lui, il s'est lancé dans le dans l'écriture et il a toujours été persuadé qu'il serait écrivain. Il a jamais dévié. Il a commencé par écrire un peu des aventures un peu grivoises. Il a commencé à publier, voilà, des petites nouvelles, un peu style, on pourrait dire le style Harlequin. Et en fait, lui-même disait que c'était simplement pour forger son style et forger sa manière de faire et apprendre, enfin, comme un apprentissage. Il est arrivé à Paris, s'est installé en France, je pense, dans les années 30 à peu près, hein, très jeune. Et il a publié sa première aventure du commissaire Maigret, ce qu'il a rendu très célèbre. Alors, c'était l'aventure de Pitre le Laiton. C'était, je pense, autour de 1927-1928, si je ne me trompe pas. Et c'est donc la première aventure du commissaire. Et là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à signer de son vrai nom, Georges Simenon, puisqu'avant, pour ses productions un peu olé-olé et un peu faciles, il avait trouvé d'autres patronymes. Donc, ce qui est intéressant dans son œuvre, c'est que, à la fois, bien évidemment, il y a les aventures du commissaire Maigret, qui est un commissaire tout à fait atypique, surprenant, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelqu'un qui fait dans l'esbrouf, c'est quelqu'un, un bon français moyen, un peu obtus, un peu comme ça, qui suit sa piste de longue dans les aventures, mais c'est surtout pas du tout un acharné de la vérité, c'est-à-dire que ce qu'il cherche à connaître, c'est un peu les fondements de l'âme des personnages qu'il rencontre. Et dans tous les romans de Georges Simenon, c'est ça qui l'intéresse. C'est pas du tout l'intrigue. Souvent, même l'intrigue, elle est pas forcément très, très passionnante, mais c'est surtout qu'est-ce qui pousse les personnages à agir tels qu'ils le font. Donc, et puis, pour continuer sur le commissaire Maigret, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de doutes, c'est-à-dire que souvent, ça lui arrive de se tromper. C'est pas du tout quelqu'un d'infaillible. Et puis, lui, des fois aussi, il fait un peu il écorne un petit peu vraiment la justice telle que le pouvoir peut la concevoir, c'est-à-dire que ça lui arrive dans certaines de ses aventures de connaître le coupable et puis en fait de laisser aller parce que bon, la personne est déjà soit punie par un destin terrible qui lui arrive et puis c'est un peu quelqu'un qui interroge l'âme humaine, c'est un peu son idée, c'est de travailler vraiment sur l'humain. Et ce qui est intéressant si le commissaire Maigret, c'est qu'on parle dans des atmosphères et dans des milieux très très différents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces aventures qui se passent dans les milieux de, par exemple, des mariniers ou dans les milieux de la paysannerie, de la France profonde. C'est pas du tout le policier des élites, c'est quelqu'un vraiment qui fréquente les petites gens, et dans toute l'œuvre de Simenon, c'est ça qu'on retrouve, c'est-à-dire que oui, c'est quelqu'un qui veut montrer un petit peu comment les gens vivent, hein, décrypter un peu leur façon de vivre. Alors aussi, ce qui est intéressant dans son œuvre, c'est le style qu'il emploie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un style que certains trouveront peut-être sans aspérité. Mais en fait, c'est ça qui fait peut-être la profondeur de ce qu'il raconte. C'est que c'est un style à la fois très, très sobre, très, très simple, un peu tiré au cordeau. En général, ses romans font guère plus que 200 pages. Il ne dépasse pas ça. Et en même temps, avec très peu, avec une économie de mots, en utilisant un langage très simple, il arrive à décrire des situations et puis décrire des pensées de personnages de façon tout à fait intéressante. Enfin, il nous fait plonger vraiment au cœur de ce que peuvent ressentir les gens. Alors, peut-être pour vous en donner une illustration, j'avais prévu de vous lire un petit court passage d'un de ses romans qui n'est pas un roman de Maigret. Puisque lui, il considérait de toute façon que le commissaire Maigret, c'était de la mauvaise littérature. Enfin, il était très critique par rapport à lui-même. Et ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il appelait ses vrais romans. C'est-à-dire des romans où n'apparaissait pas du tout le commissaire, où c'était pas forcément d'ailleurs des histoires policières. Et où vraiment, là, c'était des histoires de psychologie, de personnages. Et donc, ce roman s'appelle Betty. C'est un roman qui a été mis en image, qui a été filmé par Claude Chabrol, avec dans le rôle principal, le rôle de Betty... Marie Trintignant. Et c'est c'est l'histoire d'une jeune femme complètement paumée, qui vient d'un milieu assez aisé et qui, au hasard, est victime d'une tentative d'assassinat et qui un peu, c'est son errance à travers Paris. C'est-à-dire qu'elle-même se croit coupable d'un meurtre et puis alors qu'en fait, elle est victime d'un meurtrier. Donc, c'est un peu son errance dans Paris. Et puis ensuite, après, elle quitte Paris, elle va en province. Enfin, c'est un peu l'errance de ce personnage qui est un personnage complètement paumé. Donc, je vais vous lire un petit extrait pour vous donner un peu une idée de son style. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait au juste, mais elle tenait à ne pas être impolie. Cet homme trop bien habillé, au regard d'une acuité fascinante, elle ne le connaissait pas. Elle ignorait son nom. Elle n'en était pas moins plus proche de lui qu'elle ne l'avait jamais été de personne, en définitive, puisqu'aussi bien, en dehors de lui, il n'y avait plus rien au monde. Cela paraissait invraisemblable, mais c'était ainsi, ça. Cela durerait ce que cela durerait, une heure ou une nuit, ou plus longtemps. Et cette idée la faisait sourire, d'un sourire qui, pour le moment, était sans amertume. Il était très poli. Dans l'auto, il n'avait pas essayé de la caresser et il ne lui avait pas posé une seule question. Car elle se souvenait de l'auto, du cuir souple et frais des sièges, de la pluie sur le pare-brise et sur les vitres embuées où elle faisait machinalement des dessins du bout des doigts. Elle revoyait en ville les lumières qui se concentraient dans chaque goutte d'eau, puis les phares sur l'autoroute. Elle aurait pu raconter dans les moindres détails, comme chez un juge d'instruction ou chez un médecin, tout ce qui était arrivé depuis. Depuis quand ? Depuis le bar de la rue de Ponthieu, en tout cas. Remonter plus loin était trop désagréable, elle refusait d'y penser. Il ne fallait pas gâcher une chose si difficile à obtenir et encore plus difficile à conserver. Cet état d'équilibre précis, plus exactement de flottement parfait, qui était le sien pour l'instant. Un flottement agréable, reposant, presque joyeux. Voilà, donc bon, je n'irai pas plus loin, mais ça donne un petit peu une idée de la façon d'écrire de Georges Simenon. Comme vous pouvez voir, ce sont toujours des phrases très très courtes. Il a une économie de mots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots très recherchés. Mais en même temps, je pense que là, c'est tout début du roman et on plonge tout de suite un peu dans la psychologie de cette personne, de cette jeune femme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans la tête des personnages. Et ça, c'est vrai dans tous les romans de Georges Simenon.
Qui est intarissable sur Georges Simenon. J'ai du mal à couper dans tout ce qu'elle raconte, tellement c'est intéressant. Elle est tellement intarissable qu'elle a même fait une expo sur cet écrivain. Il est disponible à la bibliothèque départementale de Pré. Les écoles, les médiathèques, tout ça peuvent s'en emparer pour découvrir cet auteur dont elle nous reparlera mardi prochain sur un livre tout particulier qu'elle apprécie beaucoup, beaucoup. Alors vivement Bouilloire, que l'aîné se débouche, c'est fini. Nous, on est super contents parce que regardez... Ah, qu'est-ce que c'est ? Une jolie boîte pleine de chocolat. Donc nous, on va aller se farcir de chocolat et de café. Vous avez pu écouter aujourd'hui trois morceaux extraits de nos CD de la semaine. Marcel de Sarcelles des Ogres de Barbac qui seront en concert vendredi soir à Rodez. Vous entendrez même un interview vendredi si vous écoutez attentivement Radio Saint-Aff. Et il nous reste encore une place à gagner pour le concert. Alors si vous voulez appeler, c'est maintenant. On a écouté Wined and Dined de Super Bravo et El Tatuare de Melingo. Et puis on a eu droit à un bonus grâce à Elsa Gourmand, Vive le vin de Chanson Plus, Bifluoré. Dans la chemise à rayures, vous avez pu avoir un aperçu du débat qui fait rage autour de l'éolien du côté des Costes Gozon, Saint-Victor et Melvieux. Et donc la chronique du jour, parenthèse littéraire, qui était assurée par Sylvie Boulard. Merci à Chloé. à la technique.
Et merci à Audrey pour l'animation.
Merci aux deux Elsa, Elsa Gourmand, Elsa Decourt. Merci à Manu, à Philippe qui résistent tant bien que mal à cette vague de filles dans les murs de la radio. Merci pour le chocolat. On se retrouve demain.
Ça, c'est le titre d'un film. Merci pour le chocolat.
Tout à fait. Merci. On se retrouve demain à 10h10.
C'est bon le chocolat.
Ou à 17h10 en rediffusion. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Miam miam.